Mes dents sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gain, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, s'il les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rajah de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, sergent des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
La rage. De Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, qui est là tous les 15 jours sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Aujourd'hui, François.
Oui, bonjour.
François, bonjour. Et moi, avons le plaisir de recevoir.
Bernard.
Merci de ces services publics. Tous les habitués.
Et puis qui on reçoit ? Bernard, ouais, et puis qui ?
Oui, mais je n'ai pas fini. tous les auditeurs du lundi connaissent ces services publics. Tu rappelles l'horaire, s'il te plaît, Bernard ?
Tiens, je ne sais même plus. 19h30, 21h.
Voilà. Et nous avons tous les trois le grand honneur de recevoir Anne de Bréja. Anne, bonjour.
Bonjour.
Bien, Anne, présente-toi à nos auditeurs, s'il te plaît.
Mais je suis ingénieure de recherche à EDF sur le fonctionnement et l'économie du système électrique, et je suis aussi et surtout porte-parole de la Fédération syndicale Sud Énergie.
Merci. Alors, nous te recevons parce que nous avons noté dans la presse deux cris du cœur. Le premier, c'était le 27 avril. Dans la tribune, tu disais « Électricité, deux points, EDF est le choix d'un système exposé aux fluctuations des prix du marché ».
Oui.
Voilà. Et ensuite, dans la tribune, non, ça c'est dans Le Monde, pardon. Et dans la tribune, le 17 juin dernier, dans la rubrique « Opinion », tu disais « Remise en cause du marché de l'électricité, l'impossible débat ». Voilà. Oui. Donc, on va parler d'EDF. On va essayer de ne pas étriller EDF, je plaisante. Un peu d'humour. Alors Anne, on va commencer par, pour nos auditeurs qui n'auraient pas conscience qu'on fête cette année les 80 ans d'EDF. Ouais. Je voudrais que tu reviennes sur tout ce qui est création d'EDF, ses réussites et ses plantages.
Oui. Donc, EDF est né au lendemain de la guerre, de la nationalisation du secteur électrique. En même temps, il y avait la nationalisation du secteur gazier avec GDF. C'était dans le programme du Conseil national de la résistance, dans l'objectif de... d'améliorer un réseau et des moyens de production qui s'étaient développés de manière très éparpillée, avec plein de producteurs, plein de gestion, plein de réseaux privés. Et cette nationalisation devait permettre d'amener le courant dans chaque foyer de manière équitable pour tous. Et ça, de ce point de vue-là, ça a été une grande réussite, hein, puisque, au milieu des années 50, tout le monde avait accès à l'électricité, y compris dans les campagnes, y compris dans les montagnes, avec un tarif réglementé, donc public, identique pour tout le monde, un principe de péréquation tarifaire qui en fait revenait à de la solidarité entre régions, même les endroits les plus reculés, que c'était plus cher d'amener le courant, payaient la même chose que les villes, par exemple. Et puis des grands programmes de production. Alors, il y a eu des programmes de charbon, il y a eu les grands barrages hydroélectriques dont on bénéficie toujours aujourd'hui, puis le programme électronucléaire dans les années, ça a commencé dans les années 60, disons le pic a été dans les années 80-90. Et puis le réseau qui a été interconnecté et y compris avec les autres pays européens, hein, donc qui permet de la solidarité aussi entre pays. Et donc le bilan qu'on peut tirer de cette nationalisation sur le plan technico-économique, sur le plan de l'exploitation du système électrique, c'est une réussite assez incontestée, y compris par ceux qui ont défendu la mise en concurrence et la privatisation du secteur. C'était considéré comme très efficace sur le plan technico-économique, avec un prix d'électricité qui était pas cher, un des moins chers d'Europe. Encore une fois, une égalité de traitement pour tous, une qualité de service très bonne, très peu de coupures. Alors, il y avait des critiques qui étaient adressées, mais je dirais pas sur l'exploitation même du parc existant, plutôt sur la politique énergétique. On a reproché, à juste titre, à EDF d'être un État dans l'État qui a poussé au tout nucléaire. Alors, j'y ai à juste titre, moi, je suis un peu partagée là-dessus. Hein. C'était quand même une décision politique avec le plan Messmer. Mm-hmm. En tout cas, il y avait un corps, d'ingénieurs qui poussait dans ce sens et qui a défendu...
Mais les politiques se sont laissés faire.
Les politiques se sont laissés faire, mais je pense qu'ils étaient aussi très... Enfin, il y avait une volonté à l'époque, ça a été... très relancé au moment de la crise sur le pétrole, avec une volonté d'indépendance énergétique, enfin indépendance en tout cas de moindre dépendance au pétrole, et puis aussi une volonté d'exporter notre nucléaire pour faire de l'argent, quoi.
Ah bah, ça.
Donc voilà, c'était une entente entre le politique et EDF. Et donc voilà, je pense que sur le plan démocratique, il y avait des choses à redire. Et nous, dans les propositions qu'on fait, on propose quelque chose qui serait beaucoup plus un service public réellement sous contrôle citoyen. Mais ce que je tiens à dire quand même, c'est que le marché, la mise en concurrence, n'a absolument pas permis un plus grand contrôle citoyen. Au contraire, je pense que tout le monde sait que personne n'a décidé la relance du nucléaire, que personne ne décide d'avoir des prix comme on a aujourd'hui, que personne ne décide rien sur la politique énergétique. Et je dirais que c'est presque encore pire, parce que c'est tellement devenu compliqué que personne ne comprend plus rien. Et puis, elle se crée des affaires. Voilà.
Oui, bien. Alors, donc, on a fait l'historique d'EDF, Bernard.
Oui, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il y avait aussi Giscard d'Estaing qui avait sa femme qui était
Anémone
sa famille était avec, c'était pas Schneider, c'était elle était dans la famille, enfin l'entreprise qui a fourni les réacteurs, enfin les je sais plus comment s'appelle la famille, mais c'était
c'est Framatome ou Schneider?
Non, c'était un
maître de forge.
Schneider
à l'ancienne.
Enfin bref, et donc il y a eu un truc. Il y a eu un truc, si tu veux, à l'époque, je me rappelle du Canard Enchaîné qui avait fait un bond là-dessus, en disant, tiens, les choses se font bien dans la famille Giscard.
Oui, il y avait aussi du diamant de Bocassa.
Ah oui, non, ça c'est tu me diras, si tu les mets dans une chaudière, les diamants de Bocassa, ils vont vite disparaître.
Voilà. Bien. Alors maintenant, venons-en à Anne.
Oui.
À tes tribunes.
Alors,
on va expliquer aux auditeurs, qui sont des citoyens comme nous tous, pourquoi leurs factures vont devenir démentielles. Et ça ne va pas s'arranger.
Alors, c'est difficile de savoir ce que vont devenir les factures, puisque maintenant on a un prix de l'électricité qui ne dépend plus du coût de production. Mm-hmm. Ça dépend du prix de marché qui est complètement imprévisible et incontrôlable et qui alternativement passe de beaucoup plus que le coût de production à beaucoup moins que le coût de production. Donc c'est des, je dirais que le problème essentiel, c'est que c'est complètement incontrôlable. Mm-hmm. Et alors quand c'est supérieur au coût de production, comme ça s'est passé dans la grande crise, la grande envolée des factures qu'il y a eu à partir de 2021, surtout 2022-2023, ben évidemment, c'est les usagers, enfin, ce qu'on appelle maintenant les consommateurs, payent des factures qui sont complètement démentielles, quoi. Mm-hmm. Et quand, inversement, les prix de marché s'effondrent, ben là, il y a un problème pour rembourser les investissements, quoi.
Voilà.
Donc, peut-être qu'on pourra...
Commencer par 2021,
voilà.
Le problème. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé en 2021, justement.
Alors, en 2021, ce qui s'est passé, c'est que à partir du printemps, puis surtout de l'été, les prix du gaz sur le marché international ont commencé à s'envoler pour des raisons géopolitiques liées à la reprise post-Covid, essentiellement ça. Bon, et ensuite, plus des décalages liés au Covid, de maintenance, etc. Donc les prix du gaz ont commencé à s'envoler, les prix d'électricité ont suivi, donc j'expliquerai pourquoi les prix d'électricité ont suivi les prix du gaz. Et donc ça commençait à être la panique. Dès septembre, il y avait des déclarations un peu partout, notamment de Bruno Le Maire qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces prix d'électricité qui dépendent du prix du gaz alors que le gaz représente moins de 10% de la production d'électricité en France ? Il faut faire quelque chose, ce marché est aberrant. » Bon, il y a eu tout un tas de déclarations, puis les prix se sont envolés de plus en plus. Arrive là-dessus la guerre en Ukraine, voilà, qui a fait encore plus flamber les prix du gaz. Mmh. Et en plus de ça, vraiment un coup de malchance, le parc nucléaire a eu un défaut générique, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de corrosion sous contrainte qui ont été détectés sur certaines centrales, et donc on a mis à l'arrêt, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé de mettre à l'arrêt une grande partie du parc nucléaire pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Donc on s'est retrouvé en sous-production électrique, obligé de remplacer la production nucléaire par de la production à charbon qui était, à gaz, alors que le gaz s'envolait, et donc on s'est retrouvé avec des prix qui, avant la crise, étaient de l'ordre de 50 euros du mégawattheure, et qui sont passés au-delà de 1000 euros du mégawattheure.
Tout à fait.
Mais un truc complètement délirant, avec toutes les associations de consommateurs qui disaient, ce particulier... Alors, pour les particuliers, je vais y revenir, ils avaient encore un tarif réglementé par l'État qui a amorti un peu le choc, mais pour les entreprises et les collectivités, donc les communes, par exemple, qui n'avaient plus accès à ce tarif réglementé, là, il y en a qui ont vu leur facture multipliée par 10 ou par 3, 4, qui ne savaient plus du tout comment faire, c'était des alertes partout.
Les boulangers.
Qui disaient...
Qui fermaient.
Bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Et donc peut-être qu'il faut que j'explique quand même comment on est arrivé à un système pareil où le coût de l'électricité, c'est essentiellement des coûts d'investissement de très long terme dans les centrales, quoi. Et pratiquement pas le coût du gaz qui doit représenter, encore une fois, moins de peut-être 6-7%, maintenant c'est encore moins que ça.
C'est 3%.
Du coût total, c'est 3% du coût total. Parce que on a mis en place un marché, donc une concurrence, une pseudo-concurrence, dans un secteur qui s'y prête absolument pas. Enfin, je veux dire, tout le monde a accès à la même électricité sur le réseau. Si un producteur fait défaut, arrête de produire, c'est pas spécialement ses clients qui vont en pâtir, c'est l'ensemble des clients un peu au hasard. Il faut maintenir un équilibre parfait entre toute la production et toute la consommation sur le réseau. Sinon, le moindre déséquilibre peut produire un blackout en quelques secondes. C'est ce qui s'est passé en Espagne récemment, l'année dernière. Enfin, bref, quand on maintient un équilibre global, on se dit bien que c'est plutôt un système qui se prête à la coopération et la coordination qu'à la concurrence. Mais bon.
La preuve, c'est que quand il y a un problème, on lâche les barrages pour éviter justement qu'il y ait un blackout.
Voilà, enfin, en tout cas, on active les bons leviers pour mettre en œuvre cette coordination, pour essayer de maintenir cet équilibre. Mais bon, il y a quand même eu cette mise en concurrence absurde pour des raisons dogmatiques. Ouais, pardon.
Je voulais te poser une question. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle exact de l'Europe et son sacro-saint principe de la concurrence libre et sans entrave?
C'est ça qu'elle va expliquer.
Ah bon, tu y viens. Excuse-moi.
Je peux y venir maintenant et ensuite j'expliquerai la construction du prix d'électricité. Donc en fait, c'est une directive européenne de 1996 qui a imposé la mise en concurrence de la production et de la fourniture d'électricité et de gaz. Mais c'était dans une tendance plus large qui était très inspirée des théories de Thatcher et de Reagan, il fallait libéraliser les services publics. Donc il y a eu en même temps la poste, le rail, les télécoms, etc. Donc voilà, et ça a été mis en œuvre dans tous les pays, et en particulier en France, progressivement.
Mais ça a commencé par la Grande-Bretagne, et je vous renvoie à l'excellent film de Ken Loach, The Navigator, qui expliquait justement tous les problèmes
sur le rail. Et donc, mais alors on avait quand même un problème, c'est qu'il fallait donc à la place. Comment ça se passait historiquement? Il y avait un seul acteur public, EDF, qui avait le parc de production, qui faisait sa prévision de consommation et qui faisait en sorte d'équilibrer le système avec des gros programmes d'informatique, des programmes d'optimisation. Quand on commence à multiplier les acteurs, à multiplier les producteurs, multiplier les fournisseurs, il faut les coordonner entre eux pour essayer de maintenir cet équilibre. Et comment on fait ça? On fixe un prix. En fait, il y a un système d'enchères où chacun va proposer sa production à un certain prix. Et on va fixer le prix au niveau de la dernière enchère qui permet de répondre à la demande, quoi, pour maintenir cet équilibre. Et comment les gens fixent leur prix? À combien on fixe le prix d'une production? On le fixe à ce que ça coûte de produire une unité de plus par rapport à pas produire. Et donc, combien ça coûte de produire une unité de plus? Ça coûte juste ce qu'on met, essentiellement le combustible, quoi, ce qu'on appelle le coût variable qui dépend de la quantité produite. Donc, ça veut dire qu'on oublie complètement les coûts d'investissement. De toute façon, ceux-là, ils sont engagés, qu'on produise ou pas. Ouais. Et donc, chacun va faire des enchères. Et en général, et on fixe le prix donc au coût variable de la dernière centrale appelée. Donc là, on est à l'échelle européenne maintenant. Donc c'est la centrale la plus chère. Et en général, alors à certaines époques, ça a été des centrales à charbon, mais avec l'augmentation du prix du gaz, en général, c'est une centrale à gaz. Et combien ça coûte à la centrale à gaz de produire? À peu près le coût du gaz qu'elle achète pour mettre dans sa centrale.
Sachant que le gaz est hors de prix.
Voilà. Et donc, on se retrouve avec un prix de marché qui dépend une grande partie du temps, les RTE, le gestionnaire de réseau, dit à peu près les trois quarts du temps, qui dépend du prix du gaz, quand bien même ça représente une toute petite partie de la production.
C'est une aberration.
Alors il y a une théorie derrière, il y a une théorie qui dit qu'en moyenne, sur le long terme, ce qu'on appelle le coût marginal, donc le coût de la centrale la plus chère, devrait être égal en moyenne au coût total de production du système électrique.
Ça a été vérifié.
Alors en plus on dit mais cette théorie ça a été avancée par Marcel Boiteux qui est président historique d'EDF du temps du monopole. Sauf que Marcel Boiteux il utilisait cette théorie en disant elle est applicable dans des conditions très particulières qu'on appelle de parc adapté, c'est-à-dire qu'il faudrait à chaque instant, en fonction de l'évolution des prix, donc des cours du gaz, pouvoir investir ou désinvestir dans une centrale pour pouvoir s'adapter, quoi. Évidemment, c'est complètement impossible. Donc, Marcel Boiteux, il savait bien que c'était pas comme ça. Donc, il s'en servait pas pour caler les tarifs. Mais voilà, il y en a qui ont suivi, des grands théoriciens qui ont suivi cette théorie de manière complètement aberrante. Et donc, on se retrouve avec un prix non seulement complètement déconnecté des coûts, mais en plus très volatile, qu'on n'arrive pas à maîtriser, puisque ça dépend du marché mondial qui n'arrête pas de bouger. Et on ne sort pas du problème. C'est-à-dire que depuis le début, ça crée des crises. Alors, ça a créé des crises quand les prix ont commencé à monter. Les usagers ont dit, mais nous, on veut revenir à un tarif réglementé. Donc, il a fallu remettre un tarif réglementé en place, un peu en panique. Mais les fournisseurs les fournisseurs alternatifs, c'est-à-dire alternatifs à EDF, ont dit, ah oui, mais si vous remettez un tarif réglementé de vente, nous, on n'a plus de place, en fait. On n'arrive pas à capter les clients. Donc, retirer le tarif réglementé de vente. Donc finalement, on s'est retrouvé, mais sous la pression des fournisseurs alternatifs, avec une suppression des tarifs réglementés de vente pour à peu près toutes les entreprises et les collectivités. Et c'était vraiment pas leur demande, quoi. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés vraiment face à la crise, face à des catastrophes en 2022-2023. Et pour les particuliers, bon, ça posait quand même un problème de retirer les tarifs réglementés. C'est quand même un bien de première nécessité, l'électricité. Donc pour l'instant, ce tarif existe toujours. Il est en sursis permanent. L'année dernière, il a fallu justifier de le conserver. À terme, si on suit les règles européennes...
Au niveau de l'Europe, cette décision-là.
Oui, au niveau de l'Europe, on accepte les tarifs réglementés de manière transitoire. Donc, ils sont appelés à disparaître. Mais surtout, ce qui a été imposé, même pour les tarifs réglementés qui restent encore pour les particuliers, pour les toutes petites entreprises... L'Europe a imposé un changement de mode de calcul.
Voilà.
Et un changement d'objectif, en fait. C'est-à-dire que, historiquement, l'objectif, c'était de couvrir les coûts de production. Mm-hmm. Et donc, c'était calculé à partir des coûts de production. On faisait la somme des coûts avec des centrales qui ont des coûts très différents les unes des autres. Et puis, on mutualisait, on répartissait sur les consommateurs. Et on a dit non, ça ne sera pas comme ça, parce que sinon, les fournisseurs n'ont plus de place. Et donc, on va calculer les tarifs réglementés de vente, non pas à partir des coûts de production, mais à partir des coûts d'approvisionnement des fournisseurs qui n'ont pas de moyens de production. Les fournisseurs, c'est juste, ils achètent pour revendre l'électricité.
C'est les traders.
C'est les traders. Et alors, c'est quoi les coûts d'approvisionnement d'un fournisseur alternatif? Comment ils s'approvisionnent?
Il n'y en a pas.
Ils s'approvisionnent sur le marché.
Ouais.
Et donc, on se retrouve avec un tarif réglementé de vente, lui-même dépendant des prix de marché. Alors, jusqu'à l'année dernière, il y avait une partie qui était réglementée, c'était le nucléaire, l'Arenh. Enfin, il y avait un accès régulé au nucléaire qui rentrait en partie dans les tarifs. Mais depuis cette année, c'est terminé. Donc, on se retrouve avec des tarifs réglementés, eux-mêmes calculés à partir des prix de marché. Alors, c'est lissé sur 2 ans, mais c'est quand même les prix de marché. Et donc, on s'est retrouvé pendant la crise où les prix ont flambé, où le tarif réglementé de vente a été calculé selon les nouvelles règles définies, donc à partir des prix de marché lissés. Et la commission de régulation de l'énergie, qui calcule ces tarifs, a sorti un calcul en début 2022 en disant là, il faudrait augmenter de 45% hors taxe ces tarifs réglementés. Voilà. Donc là, l'État a dit peut-être pas quand même. Donc il a mis en place un bouclier tarifaire, c'est-à-dire qu'il a. Il a payé avec des finances publiques pour. Limiter la hausse à 4%, mais ça coûtait très cher aux finances publiques. Et puis l'année d'après, la commission de régulation, les prix ont continué à monter. L'année d'après, la commission de régulation de l'énergie a dit ce coup-ci, c'est
90%.
100%, ouais, 90% qu'il faudrait. Et donc l'État a dit on va remettre un bouclier tarifaire. Bilan des courses, ce que dit la Cour des comptes maintenant, maintenant c'est très documenté. Malgré les aides, les consommateurs continuent à payer beaucoup plus que ce qu'ils auraient payé s'ils avaient payé dans un système régulé basé sur les coûts. Et en plus de ça, ça a coûté très cher aux finances publiques. Voilà. C'est l'argent qu'aurait pu aller aux hôpitaux, aux écoles ou à d'autres. Donc vraiment, et où a été l'argent? Dans les rentes invraisemblables des énergéticiens dans leur ensemble, à la fois les producteurs, les traders, les fournisseurs, les courtiers qui aident à choisir les fournisseurs, les consultants qui aident à choisir, etc., les juristes, en fait tout l'écosystème financier et juridique qui s'est mis en place autour de ça.
Le capitalisme.
Voilà. Et bon, alors il y a eu des tentatives de taxer les super-profits, ça a rapporté un peu...
Les super profits, ça je peux en parler, sachant que les entreprises qui ont des super profits s'arrangent pour que les dividendes et les super profits soient mis dans les pays à basse fiscalité.
Même EDF.
Même EDF, qui est une multinationale comme les autres. Oui, il faut le dire.
Tout à fait.
Et on se trouve avec la polémique de Monsieur Zucban contre Total Energy, où il a lu le rapport et il a dit la ligne à zéro, c'est une ligne qui concerne Singapour et la Suisse, où tous les super profits sont basés là-bas, alors que les entreprises moyennes et normales, elles ne peuvent pas délocaliser à Singapour et en Suisse, et elles payent 33% sur leurs bénéfices. C'est injuste.
Et
ce sont toujours les mêmes qui payent.
C'est toujours les mêmes qui payent. Et la Cour des comptes a dit, en 2 ans, en fait, on a payé collectivement, donc contribuables plus consommateurs, 37 milliards de trop. Et moi, je pense que c'est sous-estimé.
C'est largement
37 milliards. Vous vous rendez compte un peu ce que c'est par rapport au débat?
Il y a des gens qui disent que c'est plutôt 50 milliards.
Alors, mais ça dépend ce qu'on coûte. Il y a plein de chiffres qui circulent. Le bouclier tarifaire, c'était 73 milliards. Après, ils ont récupéré une partie par la TVA, etc.
C'est pour ça que ça tombe à 65 milliards.
Voilà.
Une paille.
Quand tu parles de TVA, il y avait, c'était Sarkozy qui avait mis la TVA sur la taxe de la ville.
Oui.
Sur la taxe de la ville, il a émis la TVA dessus. C'était judicieux, quoi, mettre une taxe sur une taxe.
Ouais. Bon, c'est sûr qu'on peut, enfin, il y a eu des débats autour de la fiscalité. Est-ce qu'on la fiscalité sur les...
Mais la fiscalité depuis la Révolution française, ça n'a pas changé. Hein.
Mais je dirais, c'est presque un problème.
Toujours les mêmes qui payent. Ouais,
c'est ça. Mais c'est presque un problème de second ordre par rapport à la. Aux fuites gigantesques qui partent les poches de tous ceux qui vivent du marché de l'énergie, qui est quand même un marché, qui est quand même un secteur public, quoi. Ne devrait pas laisser la place au profit privé, quoi.
C'est pour ça qu'on t'invite, Anne, pour expliquer tout ça à nos auditeurs, et parce que on considère que avant de se révolter, il faut connaître et être informé. Et vraiment, tes deux chroniques, elles peuvent être récupérées sur le net. Je rappelle les dates. Alors, pour le 27 avril, c'est sur Le Monde. Mmh. Et ça a pour titre « Électricité 2. EDF fait le choix d'un système exposé aux fluctuations des prix de marché » par Anne de Bréja. Et pour la Tribune, sur le site web « Idées et débats », mercredi 17 juin, « Opinion, remise en cause du marché de l'électricité, l'impossible débat ». Tu répondais à un cador qui, justement, justifiait la rente des autres.
Voilà. On a un ensemble de textes et d'analyses sur notre site, hein, sudenergie.org.
Oui,
mais la tribune que tu cites là sur EDF fait le choix de la vente au prix de marché, moi, ce qui m'afflige, je dirais, c'est que, bon, en fait, EDF a fêté ses 80 ans, mais il faut voir ce qu'on fête, quoi. C'est-à-dire, ce n'est plus l'entreprise que c'était. Alors, on peut avoir des critiques sur le monopole, mais c'est une entreprise sous statut privé maintenant, depuis 2004. Hein, c'est une société anonyme.
Alors qu'avant, c'était un EPIC.
C'était un EPIC, c'est-à-dire une entreprise publique à caractère industriel et commercial, normalement, qui avait pour mission numéro un de répondre à l'intérêt général. Mmh. Une société anonyme, ça a pour mission de faire des bénéfices, quoi. Pour les actionnaires. Alors là l'actionnaire est 100% public, c'est l'État, mais il y a vraiment une espèce de dichotomie entre une boîte publique qui, en même temps, a des objectifs d'entreprise privée. Bon, en plus, moi, ce que j'ai vu, parce que je suis dans AED depuis longtemps maintenant, hein, c'est qu'à partir du moment, même quand EDF était encore une EPIC, à partir du moment où il y a eu la concurrence, EDF s'est comportée comme une entreprise
normale.
Comme une entreprise normale. Alors, je ne sais pas si elle est... Enfin, elle est quand même un peu moins pire qu'un ensemble de boîtes, si on en croit le médiateur de l'énergie. Je pense qu'il y a encore des salariés qui sont attachés au service public, mais c'est vrai qu'il y a une dérive invraisemblable. Alors, on pourrait se dire, bon, puisque c'est l'État...
On est devenus des clients, alors qu'avant, on était des usagers. C'est comme à la SNCF. À partir du moment où on a parlé de clients... Tout était perdu.
Il y a ça, et puis il y a eu la volonté aussi de se développer beaucoup à l'international.
Très mauvais.
On allait aux relais, sur les relais de croissance. Ils disaient, on va dans les relais de croissance.
Résultat, on a acheté des choses qui n'en valaient pas leur prix, à des tarifs hors de prix.
Qu'on a revendu avec des lourdes pertes. Hein, c'est quand même essentiellement de là que vient la dette d'EDF.
Tout à fait.
Mais je dirais, en parallèle aussi, on a participé à la privatisation des services publics des autres pays. Quoi. Et moi, il me semble, dans la situation...
Je comprends que les Britanniques nous envoient à mort.
Bah, les Britanniques, je veux dire, on a eu une partie de leur réseau. Il faut voir quand même de quoi on parle.
Inclay Point, par exemple.
Voilà, Inclay Point, sur une partie de leur production. Mais je pense aussi aux pays du Sud, ou au Mexique, ou en Afrique, sous couvert de les aider, on développe des moyens de production qu'il faudrait développer, je pense, mais en exigeant des rentabilités d'entreprises privées.
Oui, 15% minimum.
Voilà, donc ça, c'est pas acceptable. Oui, moi, je pense qu'on a vraiment besoin de coopération. Je veux dire, on a une dette suffisamment importante sur la question énergétique et sur la question du dérèglement climatique vis-à-vis des pays
du Sud
pour maintenant les aider sur des bases de coopération humanitaire, technique, etc. et non pas continuer à les piller comme on fait aujourd'hui, enfin profiter de leur secteur.
On électrise les mines au lieu d'électriser les villes et les campagnes et les bidonvilles et les gens et la population.
Et par exemple, quand on développe des moyens, par exemple des centrales renouvelables, des barrages dans certains pays d'Afrique, c'est très bien de le faire, mais les barrages devraient être propriété des États.
Oui.
Ne pas rester propriété d'EDF.
Et qui,
en général, s'associent en plus avec d'autres, genre Total Energy, quoi.
Oui, j'allais y venir.
Surtout, Total Energy. Et c'est pareil aussi pour l'eau avec Suez.
ONG, pour d'autres choses.
Ils ont privatisé l'eau en Bolivie notamment.
Oui, tout à fait.
C'était une horreur.
Bon. Alors, on va rester sur cette horreur, Bernard. On va faire une pause.
Sans mettre.
Grâce à Jean-Michel. Et on va revenir en deuxième partie pour la suite des méfaits.
Et du capitalisme.
Du capitalisme. En général. Voilà. Et de EDF en particulier.
Non, mais quand il y a trop de sujets de mécontentement, c'est vrai, que doivent faire les usagers, le peuple? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il n'y a pas un secteur où ça fonctionne. Pas
un. Il faut commencer par bien voter.
Ah oui, alors, ah bah, oui, alors Bolloré fonctionne bien. La preuve, c'est que comme le concours a idiotisé véritablement les gens, ils vont voter pour des partis. Moi, je ne vote pas parce que je suis anarchiste. Mais ils vont voter pour des partis qui se foutent de leur tête, puisqu'ils veulent privatiser toute chose. C'est le programme de tous les partis de droite.
Bien, on va faire une pause.
Oui, mais là, c'était pas l'antenne, là.
Chers auditeurs de Radio Libertaire, vous êtes dans l'émission Pas de quartier du groupe Louise Michel, représentée par François et moi-même, avec Bernard de Service Public, et nous recevons Anne de Bréja. pour parler de Sud Énergie, pour parler d'EDF. Alors, Anne, nous souhaiterions que tu nous présentes plus particulièrement, je reprends mes notes, la solution, tout ce qui est barrage.
Oui.
Parce que ça, je vous avais reçu il y a quelques années pour. Parce que Macron voulait privatiser les barrages, ouais. Et je vous avais dit à l'époque que vous alliez gagner votre bataille, ce qui a été le cas.
Oui, mais malheureusement, ça n'a pas très bien tourné récemment.
Nul n'en a rien su, de toute façon.
C'est ça, en fait.
On a été presse aux ans.
Je dois dire qu'on.
Mais c'est incroyable. Il parle de la chaleur et du football.
Le problème, c'est qu'on a été assez isolés dans cette bagarre. Donc, si je peux un peu rappeler l'historique de la chose. Donc, les barrages hydroélectriques produisent de l'électricité, mais aussi gèrent une eau, c'est 75% des eaux de surface, qui sert à d'autres usages que l'électricité, notamment à l'irrigation, à l'eau potable dans certains cas, à la navigation, au tourisme. Donc, c'est un bien commun vraiment par excellence. Hein, je pense que tout le monde le reconnaît. Et en plus, qui va devenir qui est déjà très stratégique, mais qui va le devenir de plus en plus avec le dérèglement climatique. Là, et ça va devenir de plus en plus rare.
Ça n'existe pas, le dérèglement climatique.
Voilà. Et pour le système électrique, c'est vraiment très précieux parce que ça permet de produire de l'électricité très flexible. Mmh. On peut démarrer très rapidement et on peut même stocker, en fait, sous forme d'eau. On appelle ça les stations de pompage, c'est-à-dire que quand il y a un peu un surplus d'électricité, on pompe l'eau. On a deux réservoirs d'eau, de lacs, un en amont, un en aval. Quand il y a trop d'électricité, on pompe l'aval pour le remonter en amont. Et comme ça, quand on en a besoin, on peut turbiner et produire de l'électricité. Donc, tout le monde reconnaît que c'est vraiment des ouvrages essentiels.
Mais le pompage, ça revient pas très cher. Quand on remonte.
Ça revient le prix de l'électricité qu'il y a au moment où on pompe, quoi.
Oui, mais tout ça pour produire l'électricité.
Tout ça pour
produire
rendement de l'ordre de 70%, mais en électricité, on a vraiment une difficulté, c'est qu'il faut produire
à tout
moment, et comme c'est pas stockable en tant qu'électricité elle-même, donc c'est vraiment précieux,
c'est
ça.
Vrai.
Donc, et puis, ce sont des installations qui ont été construites du temps du monopole, qui sont très impressionnantes, quand on regarde ce que c'est que des conduites forcées, des barrages, etc. Bon, et alors, donc, c'était propriété d'État depuis toujours, mais avec la déréglementation, les directives européennes, la mise en concurrence, la transformation d'EDF en entreprise privée, l'Europe a dit à la France et puis à d'autres pays, là, vous n'êtes pas conforme à vos propres règles et puis aux règles européennes. On est dans un système, dans un régime qu'on appelle de concession, comme les concessions autoroutières, où donc c'est propriété de l'État, mais c'est concédé. Alors, historiquement, c'était concédé qu'à EDF, mais depuis la libéralisation, il y a une partie qui est partie à Engie. Engie, ancien GDF, aujourd'hui privé. Donc, il faut, quand les concessions arrivent à échéance, il faut remettre en concurrence. Et là, on a commencé à voir arriver des bureaux d'entreprises de tout pays qui espéraient récupérer l'exploitation des barrages.
Alors, nous, on a fait un très beau film, Barrage, de Nicolas Hubelmann, que j'étais allée voir, et je t'avais rencontré à l'époque, et je t'avais dit, venez dans mon émission expliquer tout ça, tellement c'était formidable.
Voilà, donc on avait fait un grand travail avec Philippe André, qui avait fait aussi, coordonné tout un rapport. On allait interviewer plein de monde pour montrer comment c'était stratégique, comment c'était. Il y a aussi des énormes enjeux de sécurité. Hein. Si un barrage lâche, c'est vraiment catastrophique.
Comment elle passait.
Enfin, etc. Voilà, et donc on avait été voir un peu tous les groupes parlementaires pour finalement arriver. Alors nous, on n'était pas tout seul, mais on a vraiment fait un travail là-dessus. Et à la fin, tout le monde était convaincu qu'il ne fallait pas remettre en concurrence ces barrages, même si l'Europe nous le demandait. Donc, c'était une grande victoire, ça. Donc, la France a fait le dos rond, a laissé. Donc, il y a eu un premier précontentieux européen qui a demandé à la France de mettre en concurrence en 2015, en disant vous devez vous conformer, vous devez mettre en concurrence. En plus, un autre qui a dit EDF a une position trop dominante, mais la France ne bougeait pas. Donc, ça a continué comme ça. C'était pas non plus idéal comme solution, parce que comme on était dans une sorte d'insécurité juridique, les investissements ne se faisaient pas. Et puis il y avait d'autres problèmes dont peu de gens ont parlé, c'est que l'hydroélectricité était quand même dans un système concurrentiel. Donc EDF et Engie vendaient à prix de marché l'hydroélectricité. Donc pendant la crise, par exemple, ça a alimenté la hausse des factures, alors que c'est une électricité qui est particulièrement pas chère. C'est vraiment beaucoup moins cher que les autres. Bon, mais en tout cas, on avait ce système-là. Et Il y a un député, un sénateur plutôt, de gauche, Guillaume Gontard, qui avec son groupe a proposé ce qui était prévu, ce qui est possible dans la loi, y compris dans la loi européenne. C'est un système de quasi-régie. Alors, c'est quoi ce système? En fait, quand on a un système de concession, comme les villes ont leur régime de concession sur l'eau, hein, sur le réseau d'eau, soit elles le font exploiter par le privé, et dans ce cas-là, les règles de concurrence s'appliquent, il faut mettre en concurrence, soit elles décident de l'exploiter elles-mêmes. Et ça, c'était possible. Donc, l'État pouvait très bien exploiter lui-même, alors soit directement par ses propres services en régie, les barrages, soit ce qu'on appelle en quasi-régie, c'est-à-dire en passant par une entreprise 100% publique à sa main, qui est un monopole public, en fait, et ça, on appelle ça une quasi-régie. Donc, les sénateurs de ce groupe ont déposé la proposition de loi en 2021. Nous, on a été auditionnés avec les autres syndicats et on est tombé de notre chaise en découvrant qu'on était le seul syndicat à défendre ça et que les autres syndicats s'alignaient en fait sur ce que demandait leur direction, la direction d'EDF et la direction d'Engie, qui n'avaient aucune envie de voir cette solution arriver, puisque en fait, quand on crée un monopole public, il y a un principe de spécialité qui est associé à chaque monopole, qui dit l'argent du monopole doit rester à l'activité en monopole. Mmh. Donc,
C'est réinvesti automatiquement.
Ça doit être réinvesti ou profiter aux usagers. Et donc, il faut séparer, il faut que l'entreprise en quasi-régie soit dédiée à l'activité en monopole, enfin, en tout cas dédiée au moins à 80%.
Pas un sou pour les actionnaires.
Youpi. Pas un sou pour les actionnaires et pas le droit d'aller faire autre chose, d'aller dans des activités lucratives, se servir de l'argent de l'hydraulique pour aller conquérir des marchés à l'international, par exemple.
Voilà, youpi.
Et donc, ça voulait dire qu'il fallait séparer l'hydroélectricité d'EDF. Mmh. Et que Engie, à qui on avait quasiment donné les barrages sur le Rhône, avec la Compagnie Nationale du Rhône, qui est encore 50% public, mais 50% Engie, et plus les barrages, certains barrages dans les Pyrénées qui appartenaient historiquement à la SNCF, avaient fait des rentes monstrueuses avec des taux de profit de 24%, des taux de rentabilité du capital investi de 24% par an, ce qui est absolument gigantesque, n'avaient évidemment aucune envie non plus de renoncer à ça. Mmh. Donc eux, ils se sont opposés à ça, et malheureusement, les syndicats
ont suivi
en disant si on fait une quasi-régie, ça veut dire qu'on démantèle EDF, c'est le retour du projet Hercule de démantèlement, etc. Alors que non, c'était juste sauvegarder cette activité en attendant, en espérant que l'Europe reste suivrait, qu'on arriverait à un système public sur l'ensemble de l'électricité, comme on a fait pour le réseau, en fait. Voilà. Aujourd'hui, RTE ou Enedis, qui gèrent les réseaux de transport et distribution, sont restés des monopoles publics, mais donc sont... Alors, ils sont encore filiales, en partie ou complètement, d'EDF, mais ils sont très séparés, c'est-à-dire très réglementés, c'est très surveillé, les échanges. Donc, nous, on pensait qu'il fallait faire ça, eux n'ont pas voulu, et donc, ça a capoté. Et là... on est resté comme ça pendant plusieurs années, avec toujours ce problème qu'on n'arrivait pas à investir. Et donc, EDF a eu une idée miraculeuse, qui est de dire, puisque le régime de concession nous impose de mettre en concurrence, si on exclut cette possibilité de monopole public, on va changer de régime et passer en régime d'autorisation. Et c'est quoi la différence entre le régime de concession et le régime d'autorisation? Principalement que la propriété des barrages n'est plus à l'État, mais passe aux exploitants, ce qu'ils appellent en quelque sorte une privatisation.
Ouais.
Alors, il y a eu des débats pour... Bon, alors c'était quand même un peu une ligne rouge, ça gênait un peu quand même aux entournures de privatisation, donc ils ont trouvé un système où finalement on nous dit « Ah vous inquiétez pas, on n'a pas passé la propriété des barrages de l'État aux exploitants, juste passé un droit réel pour 70 ans ». Et quand on dit « Mais c'est quoi un droit réel ?» Et bien en fait, c'est à peu près l'équivalent du droit de propriété.
Ouais.
Voilà. Donc en fait, on a passé l'équivalent du droit de propriété aux exploitants, qui sont des entreprises sous statut privé, et pour certaines avec des actionnaires privés, pour 70 ans au moins. Et on en est là. Et là, le projet de loi vient d'être voté. Alors, je dois dire que je suis assez énervée par le système. Nous, on a déployé un ensemble d'arguments pour montrer quel était le problème. Parce que donc, c'est une privatisation d'un bien essentiel, mais ça veut dire que dans le cas d'un monopole public, de la quasi-régie, on aurait pu mettre en place un tarif réglementé basé sur les coûts, comme on fait pour le réseau.
Voilà.
Et donc, ça veut dire que tout le monde aurait eu accès à cette énergie pas chère dans les mêmes conditions. Là, on continue à vendre à prix de marché, complètement débile, complètement délirant. Ça veut dire aussi qu'on n'a aucun modèle économique valable pour relancer des investissements. Donc la loi, c'est soi-disant une loi pour relancer l'investissement dans le domaine hydraulique. Sauf que quand on vend à prix de marché, comment on fait des investissements sur le très long terme? Personne ne sait. Donc on en est là. Alors en plus, comme c'est complètement tordu, même les juristes nous disent, mais enfin, c'est quand même très fragile, votre système, parce que c'est pas parce qu'on passe en régime d'autorisation qu'il faut pas mettre en concurrence au moment où on passe en régime d'autorisation.
Donc, ils ont négocié. Donc, ça veut dire que l'étranger peut acheter nos barrages.
Alors, non, parce que ça, ils ont quand même négocié un truc. Donc, ça reste bien aux exploitants historiques, donc EDF et Engie. Mm-hmm. Engie, évidemment, qui continue sa rente pour 70 ans.
Ouais. Moyenne emploi. Des actionnaires privés, exactement. Extérieurs.
Ah, oui,
et alors, en plus de ça, que les 24% par an, c'est entre 2003 à l'entrée au capital d'Engie et 2020, donc avant la flambée des prix.
Voilà.
Alors, j'ai plus le taux exact depuis la flambée des prix. Par contre, quand on regarde les bénéfices, presque intégralement reversés sous forme de dividendes, je peux vous dire que ça flambe. Donc, en fait, il y a des rentes incroyables qui partent en fait, et qui continuent à partir.
Sur notre dos.
EDF, c'est pareil, ça a beaucoup rapporté l'hydraulique. Où est passé l'argent ? On n'en sait rien, pas dans l'hydraulique. Probablement dans les investissements à l'international, notamment à Hinkley Point. Enfin, en tout cas, c'est ce que suggère la Cour des comptes. Voilà. Donc, on est resté dans ce système-là. Et pour quand même arriver à garder aux exploitants historiques le droit d'exploiter sans remettre en concurrence, a été négocié des mécanismes compensatoires absolument invraisemblables, qu'on appelle des barrages virtuels, où EDF, alors seulement EDF d'ailleurs, pas Engie, est obligé de mettre à disposition des concurrents des produits dérivés pour reproduire la manière dont produire, enfin la flexibilité des barrages, c'est vraiment incompréhensible. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu comment ça allait vraiment fonctionner. Les juristes nous disent, donc ça va être mis aux enchères, ces produits dérivés. Les juristes nous disent, c'est quand même très fragile, parce que ça risque d'être attaqué. S'ils sont mal calés, ça va être attaqué par les concurrents. Donc, on n'est même pas sorti de l'insécurité juridique.
Oui.
Et voilà. Donc, on est dans un système.
Et ça va être attaqué devant les tribunaux internationaux. Et on a fait une émission.
Exactement.
Mais là, on est. Les fameux tribunaux internationaux. Mais là, privés, qui sont privés.
Mais là, ce qui est dingue, c'est qu'on ne peut même pas dire que c'est l'Europe. Parce que dans le droit européen, c'était possible de revenir à un monopole public sur les barrages. Là, c'est vraiment la faute à l'incompréhension collective, évidemment au caractère vénal des exploitants qui ne voulaient pas perdre quelque chose. Et puis, malheureusement, au suivisme des grandes organisations syndicales, quoi, à qui on en veut beaucoup. Alors maintenant, la CGT dit qu'elle est plus d'accord avec la loi, mais enfin, elle a contribué à porter la loi, quoi.
Mais voilà. Y aurait-il parmi les permanents, mais y aurait-il des...
Tu veux dire qu'est-ce qu'ils ont négocié contre
voilà.
Chacun en tira ses conclusions, mais en tout cas,
Y a des fédéraux qui ont dû.
Parce que nous avons.
Je pense qu'il y a aussi de l'incompréhension et du suivisme. Enfin bon, il n'y a pas que ça, c'est clairement.
Il n'y a pas que ça. Parce que Anne, nous avons gardé sur le site du groupe Plus Michel toutes vos émissions. Donc, pour peu qu'on voulait s'informer sur ce qui se passait dans les barrages, vous aviez été très clair, Philippe et toi.
Bien sûr, puis en plus, depuis, on a refait un rapport avec tout un tas d'experts, dont certains étaient à la CGT, à la CFDT, AFO, et qui n'étaient pas d'accord avec leur fédération, mais qui ont été mis de côté. Ah. Et on n'a jamais eu d'argument à l'inverse. Le seul argument que nous opposait à Arnaud Bertel, qui a poussé le projet, c'est la quasi-régie. Le problème, c'est que personne n'en veut. Et on disait, mais enfin, c'est qui personne ? Les exploitants, évidemment qu'ils n'en veulent pas, on va leur supprimer une rente. Et les organisations syndicales, qui représentent l'intérêt général là-dedans donc personne n'a vu passer le truc. Et nous, on s'est battus comme des lions. Et finalement, voilà, on est dans ce système-là où maintenant, on est en train de négocier. Donc, combien on va indemniser Engie pour avoir le droit de continuer à exploiter les barrages pendant 70 ans, quoi. Et puis,
hallucinant. Et avec ça, on nous explique qu'on a une dette, qu'on n'a pas les moyens de payer correctement les gens dans les EHPAD, à l'école, les hôpitaux. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête.
On marche sur la tête. On nous dit l'État n'a pas d'argent, mais je voudrais quand même rappeler...
Ça dépend pourquoi.
Ça dépend pourquoi, mais
surtout... Pour Charles de Gaulle, numéro 2 nucléaire, oui, ça, ils ont de l'argent.
Mais surtout, de toute façon, je veux dire, à moins de renoncer à l'électricité, il va bien falloir les faire, les investissements. Donc, la collectivité va s'endetter auprès de ceux qui feront les investissements. Donc, on a un choix, en fait. Soit on fait faire les investissements par le privé, soit on le fait faire par l'État, et dans un cas, ça va coûter beaucoup plus cher que dans l'autre. C'est documenté partout, parce que les investisseurs privés, ils demandent une rentabilité de leurs investissements nettement supérieure à l'État, mais aussi parce qu'ils ont plus de risques. Parce que c'est des structures plus fragiles, parce qu'ils ont un moins bon accès au crédit bancaire, parce qu'ils risquent de faire faillite, parce qu'ils risquent d'être exposés
à des
règlements qui changent sans arrêt, parce qu'ils ont un petit parc, et donc si les renouvelables se développent, ça risque de changer leur production, etc. etc. Et ce que dit RTE, par exemple, c'est entre un financement à 1% et un financement à 7% hein, du parc électrique, du parc d'électricité, entre les deux, on a doublé le coût total. Mm-hmm. Vous voyez un peu l'impact que ça a. Alors, on peut dire 1%, c'est peut-être un peu faible, mais si on passe entre 3 et 10%, c'est pareil. Mais et ouais. Franchement, l'État peut s'endetter à 3%, et le privé, 10%, c'est pas énorme, quoi.
Non.
Donc voilà, on préfère arroser, comme vous dites, hein, c'est le capitalisme, voilà, arroser des investisseurs qui, par ailleurs, de toute façon, en plus de ça, comme c'est impossible d'investir sur des décennies avec un prix de marché qu'on n'arrive pas à prévoir pour l'année prochaine, l'État, en fait, y a des mécanismes en fait, de régulation où l'État prend le risque, c'est-à-dire l'État garantit aux producteurs, par des contrats de long terme, qu'on appelle des contrats pour différence, un prix sur l'ensemble de la production des producteurs. C'est le cas pour toutes les nouvelles centrales hein, renouvelables.
C'est le cas pour les autoroutes.
C'est le cas pour les autoroutes. Donc en fait, ils développent avec un prix garanti sur toute la durée par l'État, mais en se prenant une marge. Mais encore une fois, quelque part, pour eux, c'est compréhensible. Ils ont plus de risques que l'État, objectivement. Mais pourquoi on s'inflige ça? Mais pourquoi est-ce qu'on ne mutualise pas l'ensemble des risques? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la solution la moins risquée de loin, c'est-à-dire...
Et la moins chère.
Et la moins chère. Donc, c'est-à-dire un investissement public où on mutualise les risques avec un tarif réglementé basé, calculé à partir des coûts de production, donc qui garantissent le fait que les investissements seront remboursés.
Mmh. Mmh. Disons que ça existait déjà à l'origine.
Bah, c'est ce qui était à l'origine.
C'était
voilà.
À l'origine.
Pourquoi avoir cassé cette belle mécanique?
Parce que la concurrence fait baisser les prix, comme tout le monde
pour
le sait.
Profits.
Oui, oui. Ah, merci de l'avoir dit, Anne.
Surtout j'allais... quand elle est libre et sans entrave.
Voilà. Quand on voit en plus à quoi elle ressemble cette concurrence, honnêtement, c'est quand même une blague. Quoi. Parce que, en fait, encore une fois, comme je l'ai dit, la production, c'est de la délégation de services publics, parce que tout est garanti par des contrats long terme, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, la seule partie qui est vraiment en concurrence, et encore, c'est la partie fourniture, qui est une activité quand même parasite, quoi, qui consiste à acheter de l'électricité pour la revendre sans rien faire d'autre. Enfin, juste, il y a besoin d'ordinateur et puis c'est tout. Quoi.
Ouais.
Ils ne la choisissent pas, puisque c'est le même pour tout le monde. Ils ne la stockent pas, ils ne l'acheminent pas, puisque c'est fait automatiquement par le réseau. Ils mettent leur logo sur la facture. Et pour ça, pour cette espèce de dogme, et puis d'intérêt bien compris privé, on a cassé un système qui est quand même déjà extrêmement complexe d'un point de vue technique, dont on a un besoin énorme. En plus de ça, je pense que tout le monde le sait, on a besoin d'abord de réduire notre consommation d'énergie, mais aussi de décarboner notre énergie qui aujourd'hui est encore carbonée à 60%. Et donc ça veut dire que comment on fait pour décarboner une fois qu'on se passe du pétrole, du gaz et du charbon? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'énergie non solaire, carbonée, donc renouvelable, voire nucléaire si on accepte le nucléaire, et puis un peu de biomasse, mais dont on sait qu'il va falloir, les ressources sont de plus en plus limitées, justement parce que la biomasse, les forêts par exemple, souffrent déjà des dérèglements climatiques. Donc l'électricité est un pilier de la transition énergétique et de notre avenir. On a besoin d'un système efficace, juste, le moins coûteux possible. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le livre à un marché, et ça fait des décennies que ça dure. Je veux dire, on a devant nous un constat d'échec quand même invraisemblable. On a eu cette crise où tout le monde a dit qu'il faut faire quelque chose, c'est pas possible d'avoir ces prix. On est maintenant, donc ça a démarré en 2021, on est en 2026, rien n'a changé. Rien n'a changé.
Ça s'est même aggravé.
Alors, il se trouve aujourd'hui que les prix du gaz ont augmenté, que les prix d'électricité ne suivent pas pour des raisons un peu liées au hasard, c'est-à-dire que comme on est en surproduction aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas électrifié les usages comme on devrait, donc pour une mauvaise raison. On a tellement de production, en plus, et le renouvelable là, c'est développé, qu'on sature les interconnexions. On est dans une situation de surcapacité qui fait que ça nous protège un peu miraculeusement des variations du prix du gaz.
Mais ça ne va pas durer
éternellement, quoi. On ne peut pas compter là-dessus.
Ouais.
Donc on a toujours un système complètement instable, mais on a toujours les chiens de garde qui nous disent: c'est même pas possible de débattre de revenir à un système régulé. On a eu une réforme soi-disant en profondeur du marché. Ça n'a même pas été possible d'envisager de revenir à un système public. Quoi.
Oui.
On n'a le droit que de discuter de la forme des rustines sur ce marché.
Bon. Alors, on est des libertaires. L'État, c'est pas notre dogme. Mais ça dépend pourquoi.
Voilà.
Et pour l'électricité, on fait attention. On va demander à Jean-Michel.
Non, l'État, ce n'est pas notre dogme. On avait un fonctionnement anarchiste. Là, il n'y aurait pas d'État. Mais oui. Actuellement, on n'est pas en fonctionnement anarchiste, on est en fonctionnement capitaliste.
Oui.
Et l'État, à tort ou à raison, est considéré par les pauvres gens comme le dernier rempart contre le capitalisme. Contre le capitalisme.
Mais oui, je suis au
courant. C'est le rempart. Seulement, comme les dirigeants sont issus
de la classe
dominante capitaliste, évidemment, on n'en prend pas le chemin.
Mais ils vont en mal, ils vont mettre un système autogestionnaire, ça sera beaucoup mieux.
Voilà. Jean-Michel, une pause.
Moi, j'ai rien contre.
Hein. On peut rêver.
On peut rêver. Une pause, Jean-Michel, s'il te plaît.
Attends.
Oui, trop bon.
C'est moi la fille aux prises uniques. Je fais la caisse automatique. Et tandis que j'encaisse tout ce blé, je pense à mon vernis écaillé. Je pense à mes bas qui sont usés. Comme ma vie qui est triste à pleurer. Mon truc c'était contact humain. Dire des points de vue, serrer des mains. C'est toujours la même musique sur mon piano. J'enregistre en attendant, j'encaisse ce fou, ce que j'encaisse, j'encaisse tout dans le vent. C'est passionnant à la vie des autres qui passent devant, mais des fois ça me fait mal à l'œil. Toutes ces promos qui me font de l'œil, comme si c'était ça mon bonheur, comme si il me faisait une fleur. Ma vie. Si je pouvais me la payer, la caisse, je l'aurais forcé, ouais. Sous mon ciel en néon pourri, ça me fout le tournis, toutes ces cartes qui s'agitent sous mon nez, et moi je les rattrape jamais. Tous ces trucs que j'ai pas choisis, rendez-moi la monnaie, merci. Sous mon ciel en néon pourri, ça me fout le tournis. En attendant, j'encaisse, c'est fou ce que j'encaisse. J'encaisse tout dans le vent, c'est passionnant. Arriver où je serai dedans, un jour c'est sûr, je leur montrerai. Devant. Un jour c'est sûr, je leur montrerai les pieds devant. Je partirai, mais après là, esprit unique dans ma caisse, ma boule direction, j'encaisse pas. C'est passionnant et ce serait chic de serrer la main au vieil pic. Dans ma belle caisse, j'y reviendrai. C'est passionnant, rendez-moi la monnaie devant ma caisse, fini de payer. C'est moi le fantôme de supermarché. C'est passionnant. Comment c'est passionnant? Comment c'est passionnant? Non.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Alors, avec François du groupe Louise Michel et Bernard de Service Public, nous recevons pour la dernière partie, parce que ça passe hélas tellement vite, Anne de Bréja, de Sud Énergie. Anne, l'électricité est notre avenir, l'énergie est notre avenir. Quelles sont les propositions que recoupe cette affirmation ?
Alors, c'est l'énergie est notre avenir, socialisons-la.
Voilà.
C'est de reprendre le contrôle citoyen sur un bien essentiel, sur ce qui est un service public. Mmh. Alors, comment on fait ça ? D'abord, on sépare, on distingue les débats. Trop souvent, la question de la propriété des moyens de production, de la manière de la place du privé, est complètement occultée par les débats autour du choix des filières de production, notamment est-ce qu'il faut relancer le nucléaire ou pas. Mm-hmm. Ce sont des débats qui sont importants, mais ce ne sont pas les seuls, quoi. Mm-hmm. Et donc, il y a vraiment deux questions distinctes. Il y a, dans une première étape, quelle politique énergétique, quel mix énergétique on veut pour la France. Ça, comment, pour déterminer ça, nous, à Sud, on pense que ça doit être un choix citoyen, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un vrai grand débat citoyen, appuyé par des conventions citoyennes, par exemple, et nous, on pense que ça devrait aller jusqu'au référendum, sur la base d'études techniques qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des scénarios de long terme, mm-hmm. Qui proposent plusieurs futurs, parce que RTE parle de futurs énergétiques possibles, avec ou sans nucléaire, et puis dans les scénarios avec nucléaire, il y a plus ou moins de nucléaire. Dans les scénarios 100% renouvelables, il y a des scénarios qui comptent plutôt sur des fermes, des grandes fermes éoliennes en mer, d'autres plus sur des productions décentralisées. Donc ils développent des scénarios qui garantissent l'équilibre du système électrique sur le long terme. Et puis, ils ont fait une évaluation économique, une évaluation en termes sociétal, sur l'impact, par exemple, sur l'environnement, environnemental aussi. Après, on a des choix différents. Ces scénarios ne sont pas très différents d'un point de vue économique. D'autres organismes, comme l'association Négawatt, qui a été précurseur là-dedans, ont fait aussi ce type de scénario. L'ADEME aussi, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, a également fait des scénarios. Et donc ces scénarios disent, un, que dans tous les cas on n'y arrivera pas sans réduire énormément notre consommation d'énergie au total, mais même en réduisant notre consommation d'énergie, comme je disais, comme il va falloir se passer de tout le fossile, la consommation d'électricité risque quand même d'augmenter. Et deux, on a plusieurs voies possibles, donc selon qu'on décide si le risque nucléaire est plus important que le risque de ne pas arriver à développer du renouvelable avec une utilisation plus grande des ressources. Mais je dirais que ça, c'est un choix politique, quoi. Donc voilà, première étape, on définit la politique énergétique. Donc aujourd'hui, ces scénarios existent, mais c'est une décision qui vient d'en haut. Et donc là, il devrait y avoir un vrai choix citoyen à ce moment-là. Donc des consultations nationales pour les grands, mais aussi des consultations plus locales sur l'implantation des éoliennes dans les collectivités, etc. Et deuxièmement, une fois que cette politique énergétique est définie, c'est à l'État de suivre la trajectoire définie par ces scénarios, de faire construire les centrales qu'il faut. Alors ça peut être éventuellement, on peut laisser éventuellement une place au privé là-dedans. Ça, c'est un débat à avoir, et faire des appels d'offres, on fait appel à des constructeurs privés ou faire des constructions publiques. Mais dans tous les cas, les constructeurs ne doivent pas être propriétaires et ne doivent pas être financeurs. Donc ils construisent, mais c'est propriété publique, quoi. Et donc on a un parc qui est construit. Et là, il faut l'exploiter. Et là, il n'y a pas... pour nous, ça doit être un monopole public. Alors, quand je dis monopole public, c'est au sens large. C'est-à-dire, pas de privé, pas de profit privé là-dedans. Donc, propriété publique des moyens de production. Donc, propriété d'État pour l'essentiel. Mais ça peut être aussi une propriété des collectivités pour les plus petites installations. Voire, éventuellement, des propriétés coopératives pour les petits moyens, si besoin. Un exploitant public comme était EDF qui exploite, qui définit quelle centrale produit à quel moment, qui gère la maintenance, qui, à la différence de... Parce qu'on a évolué, à la différence d'EDF, s'intègre... je vais faire une petite parenthèse. Même avant le marché, il y avait le réseau était interconnecté à l'échelle européenne et il y avait des échanges. Et au moment où on a mis en place le marché, on a décidé de choisir les centrales les plus rentables à l'échelle européenne et non plus à l'échelle nationale. Donc on a un peu gagné un effet d'échelle. Mais ça, on peut tout à fait le garder sans marché. C'est-à-dire qu'on aurait un système public, un exploitant public en France qui continuerait à se coordonner avec les autres acteurs européens via le marché, si on n'arrive pas à faire mieux. Voilà. Donc, et puis, un tarif réglementé de vente pour tout le monde, basé sur la mutualisation des coûts de production. Et ça serait réglé, quoi. Je veux dire, ça serait plus efficace de manière indéniable. Ça ne remettrait pas en cause la construction européenne. Je veux dire, le marché pourrait continuer à fonctionner comme ça. Et il faudra un contrôle citoyen à tous les étages. Donc j'ai parlé au moment de la commission, au moment de la définition de la politique énergétique, mais il faudrait aussi que cet organisme public, qu'on peut appeler EDF, mais qu'on peut appeler autrement, ait une gouvernance qui représente à la fois les usagers, les salariés, et puis l'État, qui ait des contre-pouvoirs, qui ait une vraie transparence avec, par exemple, un contrat de service public avec des objectifs librement négociés, enfin clairement négociés démocratiquement,
et que tout soit mis sur un site.
Et que tout,
rien d'opaque.
Rien d'opaque, à la différence d'aujourd'hui. Des organismes de contrôle, type Cour des comptes éventuellement, mais enfin
société de consommateurs.
Mais chacun pourrait effectivement mener vérifier que ça se fait que c'est bien l'intérêt général et que le système est bien efficace. Et dans ce cas-là, on aurait un vrai contrôle citoyen. Et à mon avis, c'est la seule façon de faire. Parce que. C'est vrai que cette histoire d'électricité, c'est très compliqué. Et ça nous nuit, évidemment, pour que les gens s'emparent de la question. Mais il y a quand même des choses un peu simples à comprendre. Techniquement, c'est un système très compliqué. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un service public. Et à partir du moment où c'est un service public, il faut...
Que tout le monde ait son mot à dire.
Que tout le monde ait son mot à dire et qu'il y ait un accès équitable pour tous, c'est-à-dire un prix qui ne dépende pas de la négociation avec son fournisseur. Et donc, comment on fait ça? Il n'y a pas 50 solutions, je veux dire. Quand on produit l'électricité, il y a des centrales qui coûtent très cher et d'autres qui coûtent pas cher, mais on a besoin de toutes les centrales.
Voilà.
Donc, si on veut une équité de traitement, il faut faire la somme de tout et puis répartir de manière homogène sur les consommateurs. Et ça s'appelle un tarif réglementé de vente pour tous.
Au dernier kilomètre.
Voilà, mais enfin sur l'ensemble des coûts, quoi. Et à partir du moment où on a ça, on ne peut pas avoir de concurrence des fournisseurs. Donc, il y a quelque chose de simple à comprendre, c'est qu'il faut choisir soit entre un service public avec des tarifs publics, soit la concurrence avec des fournisseurs alternatifs. Bon, et je pense que personne ne sait très bien dire à quoi servent les fournisseurs alternatifs. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont tellement contents d'être démarchés sans arrêt pour savoir
pour ça, quel est le fournisseur. Il faut écouter toutes les semaines Bernard, qui explique ça très bien.
Pas toutes les semaines, hein. c'est une fois par mois.
Pardon, mais...
Abondance de bien, ne nuit pas.
Ne nuit pas, surtout sur le podcast de Radio Libertaire, on peut t'écouter toutes les semaines. Tous les jours.
Tous les jours, oui.
Voilà. Je rappelle le site, c'est radio-libertaire.org. Et c'est service public. Il faut sélectionner la liste des émissions par ordre alphabétique. On peut écouter les podcasts de Pat Cartier ou de service public.
Voilà. C'est le quatrième lundi de chaque mois.
Voilà. Voilà. Donc, en fait, le système qu'on propose, contrairement. Alors, on a eu. En fait, on n'a pas vraiment de critique là-dessus. La principale technique, c'est d'ignorer la proposition. Mais bon, on a quand même, si j'exagère, il y en a qui, pendant la crise, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez entendu, tout le monde, le Premier ministre, le ministre de l'Énergie, de l'Industrie, Ursula von der Leyen, qui ont dit... Parce que quand même, les journalistes, même des grandes radios, leur disaient « Mais pourquoi est-ce qu'on ne sort pas du marché ?» C'est-à-dire de la concurrence. Mm-hmm. Et là, c'était « Mais vous n'y songez pas, c'est complètement irresponsable, on se déconnecterait de nos clients, de nos voisins, pardon. » Et donc, on n'aurait plus d'électricité. Et je me souviens de Bruno Le Maire qui disait « Ah bah oui, mais c'est sûr, les boulangers, là, ils n'auraient même plus d'électricité pour leur four, ils seraient gros gens comme devant. » Mais en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas parce qu'on sort d'un mode d'organisation financiarisé et concurrentiel qu'est le marché, qu'on se déconnecte de nos voisins. Nous, la proposition qu'on porte, elle ne change rien à l'organisation des échanges avec nos voisins, quoi.
C'est à l'intérieur que ça change.
C'est à l'intérieur, c'est le tarif qui est... Enfin, voilà, c'est un système régulé, public, qui reste avec un mode d'échange par le marché tant qu'on n'arrive pas à faire... Enfin, en fait, l'idéal, ça serait d'avoir un opérateur public à l'échelle européenne, mais ça, je veux dire, on n'est pas prêt de l'avoir. Mais nous,
on essaie d'avoir un parquet européen.
Ça. Donc, qu'on ait un système public dans les pays qu'ils souhaitent, alors évidemment... L'autre chose qui nous est opposée, c'est « mais c'est pas possible, puisque c'est contraire au texte européen ». Et ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est contraire au texte européen.
Éclaire notre lanterne là-dessus.
Qu'est-ce
qui est contraire au texte européen?
En fait, la directive européenne de 1996, c'est une obligation de mise en concurrence de la production et de la fourniture d'électricité. Mais bon, en fait, il y a eu des dérogations... Se sont multipliés depuis le début parce que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ça serait une dérogation supplémentaire si la France dirait « Écoutez, nous, on revient à un système public. Chaque pays fait ce qu'il veut. Ça n'empêche pas les autres pays de rester en concurrence s'ils veulent. Ça n'empêche pas le marché européen de fonctionner. Nous, on fait ça. » Et moi, je pense que personne ne dira rien. Et si vraiment ça allait jusqu'au bras de fer, je pense qu'il faudrait dire, bah, si vous n'êtes pas content, on sort de l'Europe, quoi. Mais enfin, l'Europe sans la France, je pense que ça réglerait vite le problème. Donc,
mais je pense qu'on aurait un allié, c'est Madame Vestager, qui est sur tout ce qui est concurrence et tout ce qui est excessive. Elle serait de notre côté.
Bah peut-être, mais de toute façon, je veux dire, on peut pas croire. Enfin, la Grande-Bretagne est sortie. Alors, tout le monde dit que c'est la catastrophe. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même un jour faire un bilan. Mais enfin, finalement, le résultat
après.
Le résultat, c'est que finalement, ils vont revenir dans le système d'échange européen sur l'électricité. Ça va rien changer parce que personne n'a intérêt à mettre des bâtons dans les roues de ce système-là. Si la France se déconnecte des autres pays, toute l'Europe est dans le noir. Donc, de toute façon, personne n'a intérêt à ça.
Non, mais bien sûr.
Donc, c'est vraiment.
À commencer par la Grande-Bretagne et Hinkley Point.
Ouais. Bah, et la Grande-Bretagne, on isolerait l'Espagne et le Portugal en même temps. Mais de toute façon, encore une fois, le réseau électrique européen ne tient pas sans la France. Donc,
il y a à la fois
des règles complètement absurdes et complètement dogmatiques de l'Union européenne qui servent d'alibi, mais il y a aussi une absence de volonté politique au niveau national de faire quelque chose.
Il y a une absence de volonté de s'attaquer aux rentes.
Oui, c'est sûr.
C'est certain. Disais que tout dépend de la France, c'est vrai. En 2004, pendant nos grèves, à un moment donné, on allait descendre les postes de transformation et on allait au clash. Mm-hmm.
Tout à fait.
On allait au clash, puisque nous, sur le poste de Saint-Denis, il y avait d'ailleurs les fédéraux CGT qui sont venus. Ça s'est assez mal passé parce que ils voulaient arrêter la grève. tous les drapeaux CGT, tout est passé dans les bras zéros. Et on n'était que deux de la CNT, tout le reste c'était CGT. Mmh. Et quand ils sont sortis, ils sont fait cracher dessus par leurs adhérents. Et quand ils sont sortis, dans le quart d'heure qui a suivi, on a eu les CRS qui sont entrés. Il y avait deux CRS par agent EDF. Mm-hmm. Et il y avait les huissiers à la sortie.
Ah ouais.
Mais bon, il y avait un copain qui a téléphoné à d'autres postes, qui est tombé. Ça aurait pu aller
plus loin.
Très loin.
Ouais, non, mais je me souviens bien effectivement de ça. Hein.
Bah oui. Donc de toute façon, on ne peut pas déconnecter la France du réseau électrique, et la France peut revenir à l'ancien système.
Absolument. Tout en restant. Alors, ce n'est pas exactement l'ancien système, hein, parce que c'est donc un. Donc, si on continue à l'appeler EDF, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler EDF, hein, ou peut-être électricité publique de France, électricité publique, voilà, de France, ça serait, à la différence d'EDF, il ne serait pas propriétaire des moyens de production, qui seraient directement propriété de l'État ou des collectivités, voire des. N'aurait pas la main sur la politique énergétique qui serait déterminée de manière démocratique, hein, comme je l'ai dit, par les citoyens. Elle ne serait pas constructeur aussi, puisqu'il faut séparer les trucs. Et pour l'activité internationale, c'est pareil, ça doit être complètement revu pour uniquement que ça soit de la coopération. Donc voilà, ça serait pas une entreprise toute puissante du tout, quoi. Ça serait une entreprise qui exécuterait des décisions prises démocratiquement avec des conditions de transparence qui permettraient un vrai contrôle.
Donc de l'autogestion.
Donc de l'autogestion.
De la machine. Donc tout ce qu'on souhaite.
Voilà.
Merci. Alors, je voudrais que tu reviennes sur... Je rêve. Non, je suis concrète. Je pense avoir donné des preuves de...
Oui, c'est l'éternelle lutte entre l'éthique et la praxiste. Hein.
Mais encore une fois, la solution qu'on propose, elle n'a rien de radical, en fait. Hein. Je vous dis, une vraie proposition radicale, ça serait un système public européen. Mais franchement, revenir à des systèmes publics dans les pays qu'ils souhaitent, c'est techniquement, il n'y a aucun problème. C'est même la seule proposition vraiment décrite que je connais sur papier. Parce qu'en fait, les marchés, ils sont toujours en train de dire qu'ils vont rajouter des choses. Ils ne sont même pas capables de décrire comment ça pourrait fonctionner sur papier. Ça créerait aucune catastrophe. Au contraire, on reprendrait en main un secteur qui, encore une fois, est essentiel pour l'avenir, quoi. C'est essentiel pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il faut pouvoir de vivre plutôt des gens, pour l'économie. Mais c'est aussi essentiel pour...
Parce que c'est un bien public.
Pour la bifurcation écologique dont on a besoin, quoi.
Mmh. C'est-à-dire revenir à tous les services publics...
Qu'est-ce qui reste comme service public? Alors, on met à part l'armée et les flics. Ah. Encore que, il y a des flics privés et il y a des pays qui se battent par... armée privée interposée. En Russie, notamment, c'est courant. Mmh. En Amérique aussi, c'est courant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui reste de public?
Il reste quand même une partie de la santé qui est publique, même si c'est très attaqué. Il reste une partie de l'éducation nationale qui est publique, même si c'est très attaqué.
Dans les transports, il y a la partie qui rapporte rien, qui est restée publique, comme d'habitude, et la partie qui rapporte du fric, qui a été privatisée. C'est pour ça qu'on achète des billets de chemin de fer comme on joue à la bourse. Alors, c'est pas du tout un progrès. Hein.
Ah ben non, c'est clair que c'est pas un progrès.
C'est une catastrophe.
D'un point de vue technique, ça, là aussi, ça complexifie énormément les choses. Enfin, on voit bien que quand chaque compagnie exploite des trains et qu'il y en a un autre qui détient le réseau, ça ne facilite pas les choses. Quoi. Non, ça ne facilite pas non plus les choses pour les usagers. Maintenant, on commence à...
privatiser aussi.
C'est déjà... Merci, Madame Pécresse. Elle a bien joué, là. Non.
Après, il y a des mouvements contraires aussi, notamment sur l'eau. Il y a eu des grands mouvements de remunicipalisation de l'eau.
Voilà, tout à fait.
On s'aperçoit que ça coûte moins cher et que c'est plus efficace, quoi. Parce que moi, je dis pas qu'il faut tout privatiser. Je veux dire qu'il faut tout nationaliser, mais il y a quand même des secteurs essentiels qui ne se prêtent pas à la concurrence et pour lesquels c'est très dangereux de laisser ça au privé.
La Poste, notamment.
La Poste, mais l'énergie, c'est vraiment une caricature, quoi. Techniquement, c'est un système intégré par nature, coopératif par nature. Il y a besoin d'investissements très lourds où tous les économistes un peu sérieux disent que seul le public peut investir sur... Enfin, une centrale nucléaire, c'est 60 ans. Un barrage, ça va de l'ordre de la centaine d'années. Oui. Et même les énergies renouvelables, c'est 30 ans, quoi. Qui peut investir sur des échéances pareilles? L'économiste Jean Pisani-Ferry et Mafousse, qui sont quand même pas non plus des gauchistes, quoi, disent on n'y arrivera pas sur des investissements comme ça sans le public. Ça doit être majoritairement des investissements publics. Donc,
je veux dire,
il faudra peut-être un jour qu'on s'y mette, parce que chaque année perdue nous aggrave la situation. Là, on est en pleine canicule. Peut-être qu'enfin, les gens vont finir par réaliser, et surtout nos politiques.
Les gens réalisent.
Ils réalisent quoi?
Alors qu'ils votent, honnêtement.
Alors ça, je suis content que tu dises ça, parce que moi, j'étais pas aperçu qu'ils réalisent quoi que ce soit.
Les gens commencent à protester. Surtout ceux qui sont au dernier étage, avec 40 degrés.
40 minimum.
Et là-dessus, sur la rénovation, il y aurait aussi plein de choses à dire. Parce que c'est pareil, on laisse faire le marché là-dessus. Donc on dit aux gens, isolez vos maisons, mais c'est pareil, c'est des investissements sur 30 ans. C'est techniquement quand même pas si simple que ça. Aujourd'hui, on vous dit il faut isoler votre maison, allez voir France Rénov. Que fait France Rénov? Il nous envoie vers un consultant privé qui commence par faire un diagnostic pour 2000 euros.
Voilà.
Et ensuite tous les risques sont à la charge
du client.
En plus de ça, tous les gens qui sont dans des immeubles, qui représentent quand même la moitié des gens, de toute façon, ils n'ont pas les moyens. Enfin, si la copro ne veut pas faire l'isolation, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est une isolation par l'intérieur, ce qui n'est pas ce qu'il faudrait faire. Il faut faire évoluer les règles d'urbanisme, parce que trop souvent, les architectes des bâtiments de France s'opposent à des isolations par l'extérieur. Enfin, en fait, c'est pareil. Là encore, ça doit être un service public, penser sur le long terme, globalement, revoir les règles d'urbanisme, prioriser, et ça doit être de l'investissement public, parce qu'à la fin, c'est rentable.
Bien sûr.
Mais c'est rentable sur 30 ans. Donc, c'est à l'État de mener ça. Et en fait, les seuls qui arrivent à peu près à mieux s'en sortir, c'est tout le parc social, parce que derrière, il y a une structure un peu solide qui peut développer des compétences, qui a une vision un peu globale. Mais vraiment, cette question de rénovation, il y a de quoi aussi être en colère. C'est-à-dire qu'on laisse faire le marché avec des aides individuelles hyper compliquées qui changent tout le temps. Oui. On renvoie les gens sur des artisans qui, pour certains, n'ont pas les compétences. Il y a plein de malfaçons. Mmh. Alors que ça devrait être piloté par l'État, financé par l'État, réceptionné, garanti par l'État. Et puis qui après font appel éventuellement à des artisans. Mais...
Si on va par là aussi au niveau de l'électricité et du gaz, auparavant, c'est nous qui faisions les réceptions d'installations électriques et gaz, et c'était gratuit. Et c'est passé maintenant avec des consuels et tout ça qui te taxent un maximum. Ça m'est arrivé de passer derrière certains.
Ça faisait peur.
Je ne remettais pas ni le gaz ni l'électricité. Parce que,
Ça faut développer une vraie filière. Et là, ça ferait de l'emploi. Et l'emploi utile et non délocalisable.
Oui. Alors, Anne, vous avez un site internet à Sud Énergie. Si tu pouvais donner l'adresse.
Moi, c'est www.sudenergie.org. Et quand vous vous baladez dans les menus, il y a un menu qui s'appelle pour un service. Je crois pour un service public de l'énergie, dans lequel il y a tout, toute la documentation, les articles, les débats sur la question du marché. On a un autre menu qui est dédié à l'hydroélectricité, au barrage, sur lequel il y a plein aussi d'informations.
Et on renvoie au film.
Un peu détaillé, le film, voilà,
de Nicolas
le
Huberman.
Rapport qu'on a fait donc avec. Encore une fois, des experts de l'intérieur, mais de différents syndicats ou certains qui ne sont pas syndiqués. Hein, parce que là-dedans, les fédérations ont un peu représenté qu'elles-mêmes. Ils ne représentaient même pas leurs adhérents et leur section. Oui, quoi.
Tout à fait.
Voilà, donc voilà. On a pas mal d'informations. Ce petit livre, là, L'énergie est notre avenir, socialisons-la, qu'on a fait avec ATTAC. Qui est commandable.
Alors, ATTAC a sorti un nouveau livre qui s'appelle Taxons les riches.
Ouais, bah,
tout un programme.
Voilà.
Et ils sont dans la campagne.
Qu'on en parle de ça.
Ils sont sur la campagne Désarmons les multinationales. Ça, c'est une campagne que j'adore.
Ah oui,
les multinationales, c'est mon fonds de commerce.
Ils font vraiment un travail nécessaire.
Formidable.
L'ATTAC, oui, très, très bien.
Voilà. Alors, je rappelle le titre de tes deux tribunes. Bon, sur le site de la tribune, dans la rubrique Idées et débats, le mercredi 17 juin, opinion, remise en cause du marché de l'électricité, l'impossible débat. Et sur le site du Monde, le 27 avril 2026, électricité 2. EDF est le choix d'un système exposé aux fluctuations des prix de marché.
Voilà. Et en fait, sur notre site, ou même en cherchant sur Internet, on a plusieurs tribunes dans le monde, un peu, voire y compris des tribunes collectives qu'on a écrites avec des économistes.
Oui, mais comme c'était toi l'invité, donc on a privilégié.
Des articles de Monde Diplo aussi, sur, en décembre dernier, là, par exemple, sur l'hydroélectricité.
Exact, j'avais vu passer.
Voilà.
Et je t'avais coché à revenir dans l'émission. Donc c'est chose
avec
faite.
Avec plaisir.
Merci Anne, merci Bernard. Rappelle ton émission, s'il te plaît.
Alors, l'émission, c'est le 4e lundi de chaque mois. De 19h30 à 21h. Et services publics, on traite des problèmes des services publics. Là, on fait la pause juillet-août. En septembre, on va recevoir ça sera pas l'énergie, ça sera dans le médical, on va recevoir des femmes gynécologues qui sont en train de disparaître.
Oui.
Un peu partout.
Et ouais. Alors que c'était une spécialité française. On était en avance là-dessus, sur l'Europe.
Oui, mais
l'Europe nous.
Mais on va reculer.
Nous envier là-dessus.
La gynécologie, maintenant, puisqu'ils veulent que ce soit les médecins traitants qui fassent.
Les opérations.
Qui fassent une petite. Qu'ils approfondissent un peu leurs études sur la gynécologie pour pouvoir faire gynécologue.
C'est vrai que la situation de la santé, c'est très inquiétant.
Donc on va reparler de ça.
Les déserts médicaux, par exemple.
Ah bah.
Hein, voilà un truc qui est marrant. Les déserts médicaux, ça c'est transformé. La solution, c'est simple, c'est tous ces petits centres médicaux qui font tout. Hein. Tu sais, ils bradent, ils font la dentisterie, le cœur, le poumon, le foie, la rate, enfin tout, ils font tout. C'est acheté par des fonds de pension américains ou européens, et ça rapporte. C'est comme les EHPAD, ça rapporte. Voilà, ça c'est la solution que le privé propose pour les services publics.
Ah bah oui, mais
c'est quand même ça. Hein.
Bien sûr, mais
les hôpitaux, ça vaut rien. Les hôpitaux, il faut les jeter aux orties. Donc il n'y a que la médecine privée qui a le vent en poupe, au Sénat notamment.
Et puis on parlait de ce. Au niveau d'éducation aussi, puisque les facs, maintenant, depuis 2018, doivent être autonomes, doivent se débrouiller seuls pour s'autofinancer. C'est pour ça qu'il y a une des trois facs de Strasbourg qui a fermé, faute de financement. Et puis là, il s'attaque maintenant...
aux étudiants étrangers, qui payent trois fois plus cher que les nationaux.
Et là, ils vont faire un truc très très bien, c'est-à-dire qu'ils vont, au niveau de la France, au niveau des facs, ils vont supprimer les bibliothèques, parce que ça, c'est pas intéressant.
Pour
mettre de l'IA à la place.
Quand on regarde l'état du primaire, du collège, quand on voit les... Bon, là, on est en période de canicule, je vous dis pas les températures qu'ils ont dans les classes, mais on pourrait aussi parler de... Enfin, il y a une absence de moyens, de profs, d'assistants. Il n'y a pas un psychologue par collège quand on voit violence.
Pas d'assistante sociale.
Le nombre d'incestes, de violences, c'est quand même un endroit où on pourrait détecter les violences pour les enfants.
Non, mais moi, ça relève du complot. C'est vraiment c'est un truc mafieux organisé, ça. Bon. De foutre en l'air le public comme ça.
Alors, donc on vous renvoie vers l'émission de Bernard, qui est une vigie sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Alors, j'ai deux annonces à vous faire. Le groupe Louise Michel, vous pouvez le rencontrer demain à 19h au siège à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Oberkampf ou Filles du Calvaire. Nous recevons un jeune économiste qui a fait un livre que nous avions reçu dans l'autre émission du groupe Louise Michel, qui est La Rage dedans, qui est un vendredi sur deux de 16h30 à 17h30. Et c'est Erreur sur la marchandise, et c'est Amine Messal. Nous le recevons à la librairie, et il va vous expliquer tout ce qu'il faut pour combattre les libertariens. C'est passionnant.
Les libertaliens, c'est pas ce qui manque. Hein.
Oui, tout à fait. Surtout en Colombie, à l'heure actuelle, il faut voir les désastres que ça promet. Et surtout, le samedi et le dimanche prochain, 27 et 28, Publico fait sa braderie annuelle de fin d'année. Donc, vous êtes invité de 9h à 18h pour acheter livres, DVD, à prix défiant toute concurrence, et vous serez reçu par toute l'équipe qui anime la librairie et dont les membres du groupe Louise Michel font partie. Voilà. Anne, merci infiniment.
Merci beaucoup, Mariama.
Je rappelle que tes émissions peuvent être consultées sur le site du groupe Louise Michel, parce que comme elles sont anciennes, le podcast de Radio Libertaire ne dure qu'un an. Donc les groupes ont des sites internet où ils gardent toutes leurs émissions. D'accord. Donc toutes les émissions ont été gardées et elles sont précieuses.
Depuis 14-15 ans, pas plus. Hein.
Voilà, tout à fait.
Parce c'est suffisant pour... sur cassette.
Sur cassette.
Voilà. Ouais. Bernard, merci. François, merci. Merci à Jean-Michel, sans qui il n'y aurait pas d'émission. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous, surtout.
Et prenez pas froid. Hein. Et tapez bien dans la baballe.
Ah bah c'est...
Hein? François et son humour. Il y avait longtemps.
Ah ouais, c'est vrai que je suis bien content.
La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interroger les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. C'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'orage, le venin. Fallait voir comment il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le chiffre de l'humain. La race, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La race, je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon jugé, tel qu'un maghrébin. Je dis blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la puvin. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Il avait son secret, le loup. Hé, 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, un jour. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les consoles en ligne, ça va. J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale, c'est dans la vie, non ? Il ne sert à rien foutre.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette pour une métaphore, non ?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases. Enfin, moi, je suis. Ça, c'est une métaphore.
C'est une manie que tu as de cracher partout devant la race. Excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Les dingues, je les soigne. Je vais faire une ordonnance. Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 fois de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle.
Je pense que quand on mettra les gonds sur orbite, ça pourrait vite tourner.
Tu marines dans le pinard comme des scuses en côté. Ton sang plus globule, c'est du 11°5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, Bieber.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
Où tu sors, où je te sors, mais on a pris des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches. Des migraines.
Attention.
Des nervous breakdowns.
L'alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant ! Oh, fais-moi le malin !